Vous êtes sur RTL.
30.
RTL Midi,
le 12-30,
avec Amandine Bégaud.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. À la une, cet incendie toujours pas maîtrisé dans le Var. La nuit a été longue pour les quelques 1200 pompiers mobilisés. Le feu qui a fait une première victime, un homme retrouvé mort à son domicile à Grimaud. Nous irons sur place dans un instant. Dans ce journal également, les évacuations qui se poursuivent à Kaboul. Abritel poursuivi en justice. Le site de location de vacances est accusé d'avoir publié de fausses annonces sans les vérifier. Justement, c'est notre question du jour. Location de vacances, faites-vous confiance aux plateformes de location en ligne? Et vous dites non à 73%. Ça le mérite d'être clair. Appelez-nous pour réagir, pour nous raconter vos expériences, bonnes ou mauvaises. Au 3210, bien sûr, des vacances dont sont privés un tiers des enfants, 1 sur 3. Le Secours Populaire organise aujourd'hui la journée des oubliés des vacances. On vous emmènera à Cabourg, où certains découvrent la mer pour la toute première fois. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Bon, malheureusement pour ces enfants, ça ne va pas être terrible à Cabourg.
Non,
hein.
C'est pas terrible à Cabourg, mais bon, il n'y a pas que. Hein. C'est un peu généralisé en ce moment.
On a tous froid presque.
On a tous un peu froid, on est tous sous les nuages avec peu ou pas d'éclaircies. Et puis même quelques petites brunes, hein. Il y en a eu à Cabourg ce matin. Il y aura peut-être un peu moins cet après-midi parce que ces petites brunes devraient, si je puis dire, se limiter au nord de la Seine et dans le nord-est. Et puis ailleurs quand même, après ces nuages très denses de la matinée, on peut espérer quelques rares trouées en cours d'après-midi. Sauf dans le quart sud-est, où là effectivement ce sera encore du grand ciel bleu, avec toujours un peu de mistral et de tramontane, mais moins violent que prévu là pour l'instant sur le Var notamment, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais attention, les plus fortes rafales sont toujours attendues en milieu d'après-midi, donc à surveiller quand même dans les toutes prochaines heures. Puis les températures, vous l'avez dit, absolument pas de saison, 19 à 21 degrés près de la Manche, 21 à 22 degrés hein, dans la moitié nord.
C'est pas beaucoup.
On devrait avoir au moins 25 quand même, 22 à 25 dans le sud et 28 à 31 près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Louis, vous revenez tout à l'heure d'ici une demi-heure avec des bonnes nouvelles pour la fin de la semaine.
Quand même.
Bon, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer, direction donc le Var et l'incendie qui ravage depuis plus de 36 heures maintenant l'arrière-pays de Saint-Tropez a donc fait une première victime, un homme retrouvé mort chez lui à Grimaud. Grimaud et sa région où 1200 sapeurs-pompiers restent mobilisés. Le feu n'est ce midi toujours pas maîtrisé. Les canadaires qui avaient interrompu leur travail avec la nuit ont repris du service ce matin aux alentours de 8 heures. Écoutez Carlo Zaglia, c'est le porte-parole des sapeurs-pompiers du Var.
C'est un feu qui s'étend sur plus de 22 kilomètres, hein, qui part de la commune du Luc et qui va pratiquement jusqu'à la commune de Grimaud. Le vent devait tomber, il n'est pas tombé du tout cette nuit, donc ça a été quand même très très difficile, mais les sapeurs-pompiers se sont vraiment battus pour préserver l'intégralité des habitations qui étaient menacées. On en est au troisième jour de cet incendie. C'est un feu comme on n'en a pas vu depuis une dizaine d'années en France. On a maintenant 1200 sapeurs-pompiers qui sont engagés. La journée va être difficile parce qu'on attend un vent d'est, donc c'est un vent qui va encore pousser les flammes. Il va faire aussi très très chaud, on annonce des températures de 35 degrés, ce qui va vraiment compliquer la tâche des sapeurs-pompiers sur le terrain.
Le porte-parole des sapeurs-pompiers du Var, joint pour RTL par Pierre Collin. Alors une partie des personnes évacuées dans la nuit de lundi à mardi n'ont toujours pas pu regagner leur domicile ou leur lieu de vacances. Certains ont tout perdu. Résultat, la solidarité, vous allez le voir, s'organise. Illustration dans ce centre d'accueil à Cogolin, où vous vous êtes rendu, Sébastien Rouxel.
Dans un petit réfectoire transformé en dépôt, quelques bénévoles s'activent pour trier les dizaines de shampoings, de gel douche, de pantalons et de serviettes qui envahissent la salle. Depuis hier matin, les dons affluent en masse. Ici, explique Sonia, adjointe au maire.
Alors nous avons reçu énormément de dons de la part des Cogolinois, des commerçants, des restaurants de la ville de Cogolin.
Vous attendiez à autant de dons
Franchement, non. On a reçu énormément et ça fait très très chaud au cœur.
Dans un coin de la salle, Nathanaël récupère un t-shirt, une paire de chaussettes. Il a tout perdu dans l'incendie de sa caravane. Alors cet élan de solidarité le touche tout particulièrement.
Ah, c'est chaleureux, ça fait du bien, on se ressent regonflé, si je puis dire. Même en ayant vécu cela, on est remotivé, on se dit qu'on va faire le nécessaire et puis après repartir chez nous, quoi, tout simplement.
Ces dons, ils proviennent de toute la région, des particuliers, des petits commerçants. Et parmi les entreprises qui se sont le plus mobilisées, il y a la tarte tropézienne. L'un de ses gérants, Sacha Dufresne, a commencé les livraisons dès hier matin.
Des pizzas, par exemple, que l'on fabrique dans nos boutiques, ainsi que du pain également et quelques desserts. Quand on nous a appelés, on a répondu tout de suite présent. Je pense que c'est dans ces périodes compliquées qu'il faut...
Et il promet de continuer les livraisons tant que cela sera nécessaire.
Sébastien Rouxel, l'envoyé spécial d'RTL dans le Var. Autre inquiétude, elle concerne la faune et la flore. Bonjour Concha Agero. Merci d'être en direct avec nous sur RTL. Vous êtes la directrice interrégionale de l'Office français de la biodiversité et vous avez, par le passé, été la conservatrice de la réserve naturelle de la Plaine des Morts, qui est ravagée par les flammes. J'imagine que c'est encore tôt pour constater l'ampleur des dégâts, mais est-ce qu'on peut déjà parler de catastrophe ?
Oui, bonjour. Effectivement, on est vraiment dans une situation de catastrophe naturelle, catastrophe écologique également. C'est à l'heure actuelle, on est à peu près 50% de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Morts qui est passée sous les flammes. Dans notre malheur, le feu a eu des sottes, c'est-à-dire qu'il a laissé des poches vertes de végétation, un peu comme des oasis. Et dès que nous aurons l'autorisation des pompiers, donc on ira sur site voir si on peut trouver de la faune à sauvegarder.
Alors cette réserve, il faut le préciser pour tous ceux qui ne connaissent pas la région, elle abrite des espèces protégées de tortues uniques au monde. C'est ça votre principale inquiétude ce midi ?
Tout à fait. Les tortues, donc la tortue d'Hermate est une espèce en voie de disparition, menacée. C'est la seule tortue terrestre à l'état sauvage que nous ayons en Europe. Et on la trouve uniquement dans le Var, dans la Plaine des Morts et en Corse. Et cette tortue, donc, elle est peu mobile au final. Et donc, contrairement, par exemple, aux mammifères ou aux oiseaux qui ont pu avoir eu la chance de s'échapper, la tortue, malheureusement, elle a été prise dans les flammes. Nous avons eu la chance hier d'aller sur le terrain voir un peu les dégâts. Et en quelques mètres de prospection, nous avons trouvé trois tortues grillées. Elles sont pétrifiées, elles ont cherché à se rapprocher des cours d'eau et malheureusement, le feu les a rattrapées.
On peut imaginer que certaines aient réussi à se mettre à l'abri ou pas du tout
On peut espérer, en tout cas, nous avons l'espoir.
La flore aussi a été détruite. On est, il faut le rappeler, dans une zone très très boisée. Combien ça peut mettre de temps pour se reconstruire ?
Alors, au niveau de la flore, on a différents niveaux. On a surtout les boisements qui, eux, vont mettre un certain temps. On a l'expérience malheureuse donc des incendies passés où on sait que pas avant 10 ans, on pourra retrouver des arbres avec des hautes tiges. Et c'est vraiment un minimum. Après, nous avons les plantes vasculaires, les orchidées qui on espère, vont pouvoir renaître de leurs cendres. Ça, c'est le temps qui nous le dira. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le paysage particulier de la Plaine des Morts, qui est cette savane provençale, celui-ci, il est perdu au moins pour un certain temps dans les zones incendiées.
Et toute dernière question, c'est d'autant plus inquiétant que le feu, on l'a entendu, hein, via les pompiers, n'est toujours pas maîtrisé.
Déjà, je tenais vraiment à saluer le courage et l'effort des pompiers qui nous aident à sauvegarder cette nature. Le feu n'est toujours pas maîtrisé, effectivement, et malheureusement, nous avons perdu encore 1300 hectares cette nuit. Donc ça porte aujourd'hui à 8000 hectares le bilan de l'incendie qui a parcouru la plaine et le massif des Morts. Et donc là, le feu est sur le secteur de Villauban, donc ces belles pinettes de pin parasol qui paye un lourd tribut.
Ça aussi, ça fait partie de ces paysages qu'on aime dans le Var. Merci beaucoup, Concha Agero, d'avoir été en direct avec nous. Et donc, vous nous donnez ce chiffre, hein, tout dernier chiffre, 8000 hectares qui ont été ravagés. Merci. Dans l'actualité également, ce midi, l'Afghanistan, bien sûr, et ses opérations d'évacuation qui se poursuivent. La France annonce avoir effectué une nouvelle rotation la nuit dernière. 25 Français, 184 Afghans ont été exfiltrés de l'ambassade de France à Kaboul vers Abu Dhabi. Il devrait tout prochainement être rapatrié à Paris à bord d'un avion militaire. C'est ce qu'indique Florence Parly, la ministre des Armées. Ce matin, sur RTL, Christian Estrosi, le maire de Nice, a prévenu sa ville n'accueillera aucun réfugié.
Non, voilà, c'est clair. J'ai eu une ville qui, ces dernières années, était victime du terrorisme, vous le savez, oui, de manière considérable avec l'attentat du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. Encore à l'automne dernier, trois personnes assassinées sauvagement dans une basilique à Nice. Je dis que nous devons mettre en place une politique migratoire telle que nous la proposions il y a quelques années d'ailleurs avec Nicolas Sarkozy, qui soit des politiques de quotas, et une négociation internationale doit s'engager sur le contrôle et la répartition qui doit se faire de manière concertée.
Et Christian Estrosi, le maire de Nice, qui était l'invité d'RTL ce matin avec Jérôme Florin, une position qui tranche avec celle des maires écologistes qui se sont tous dit prêts dès hier à accueillir des réfugiés afghans. Parmi eux, le maire de Lyon, Raphaël Vantard, bonjour, vous êtes sur place pour RTL. Pour l'instant, on en est chez vous au stade des intentions.
Exactement. Aucune prospective, aucune étude, aucun recensement des structures d'accueil n'est pour le moment entrepris, que ce soit à la mairie de Lyon ou à la métropole, également dirigée par les écologistes. Pour le moment, Grégory Doucet, le maire de Lyon, et Bruno Bernard, son homologue à la métropole, s'en tiennent à des déclarations politiques fortes face à un discours qu'ils estiment timoré sur l'accueil des réfugiés de la part du président de la République. Des déclarations uniquement d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Sur le terrain donc, l'heure n'est pas du tout encore au préparatif. On fera des annonces quand ce sera consolidé, dit-on au cabinet du maire de Lyon. Même son de cloche à la métropole lyonnaise. On a des services réactifs, on sait faire face à l'afflux, on trouvera les lieux pour un accueil massif le moment venu. Sauf que ce moment venu pourrait arriver assez rapidement. Dans quelques semaines, les premiers réfugiés afghans ont déjà pris la route pour fuir les talibans.
Raphaël Vantard, l'un des correspondants d'RTL à Lyon, près de Toulouse, à présent le centre de vaccination qui avait été vandalisé dans la nuit de lundi à mardi a rouvert dès ce matin. Ce sont 500 doses qui avaient été détruites, Patrick Tégéraud.
Alors juste avant l'ouverture, le responsable du centre, le docteur Jean Favarel, très ému, nous a montré les boîtes de vaccins inutilisables.
Oui, voilà, vous voyez, c'est cassé, c'est piétiné, c'est même pas de la colère. C'est de l'écœurement, en fait. Il y a des populations ailleurs dans le monde qui meurent parce qu'ils n'ont pas droit au vaccin et que nous, on jette plus de 500 flacons. Hein. Voilà, c'est de l'écœurement.
Cathy est infirmière, c'est elle qui vaccine et elle est consternée.
À mon sens, c'est vraiment une atteinte à la liberté, ce genre de choses, parce que les anti-vax et les anti-pass sanitaires, ils disent que c'est une atteinte à la liberté. Ben, d'aller casser un centre de vaccination, c'est une atteinte à la liberté. Voilà, et je trouve ça très, très triste. Hein.
Alors, pour que la vaccination reprenne au plus tôt et pour montrer que les malfaiteurs ne pouvaient pas gagner, mairie, préfecture et ARS ont mis tout en œuvre pour que le centre rouvre ce matin. Laurent a été un des premiers vaccinés.
Là, je trouve ça stupide, tu vois. Casser pour casser.
Les gendarmes épluchent les vidéosurveillances du centre et des alentours pour mener leur enquête. Et la surveillance va être renforcée justement cette nuit à Saint-Aurens, comme devant tous les centres de vaccination de la Haute-Garonne.
Patrick Tégéraud à Saint-Aurens de Gameville, près de Toulouse, pour RTL. RTL qui vous le révélait dès ce matin, les vaccins et tests anti-Covid devraient coûter cette année plus de 10 milliards d'euros à l'État. Le gouvernement a même déjà budgété 2 milliards pour 2022. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
C'est vous qui vous êtes procuré ces chiffres pour RTL, des chiffres qui donnent le tournis. Mais combien ça coûte un test ?
Vous avez deux types de rémunération. D'abord, les tests antigéniques, très demandés en pharmacie. Chaque test antigénique est payé entre 15 et 25 euros par l'assurance maladie. C'est un forfait qui comprend le coût du test, ses réactifs, le temps passé à vérifier vos données de santé et le rendu des résultats. Ensuite, vous avez la rémunération des tests PCR en laboratoire. Plus les résultats sont rendus vite et mieux les labos sont rémunérés. Un résultat PCR en moins de 12 heures, c'est près de 50 euros gagnés. En revanche, au bout de deux jours de délai, là, la rémunération n'est plus que de 20 euros.
Et c'est efficace comme ça de rémunérer selon le délai d'attente des résultats ?
Oui, c'est plutôt efficace. Vous vous souvenez des longues files d'attente au printemps 2020, c'est fini. Pourtant, le nombre de tests demandés a atteint des sommets ces dernières semaines. Rien que pour la première semaine d'août, les statistiques de l'adresse ont dénombré 4 200 000 tests validés, 60% d'antigéniques et 40% de tests PCR.
Merci beaucoup Anaïs Bouissou du service économie de RTL. Je vous le disais en titre, Abritel est poursuivi en justice, poursuivi par la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Le site de location de vacances est accusé de pratiques commerciales trompeuses. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on leur reproche concrètement ?
Eh bien, on lui reproche d'avoir laissé des escrocs publier des annonces sur sa plateforme. La répression des fraudes met en doute les contrôles qu'Abritel dit effectuer et l'accuse d'induire le consommateur en erreur sur la fiabilité et la sécurité du site. La DGCCRF a déclenché une enquête à la suite de plusieurs signalements de victimes d'annonces frauduleuses. Des vacanciers croient réserver une villa, paient la somme demandée, mais en fait ce n'est pas le propriétaire de la maison qui a publié l'annonce, c'est un escroc qui empoche l'argent. Les clients réalisent la supercherie quand ils arrivent sur le lieu de villégiature, pas de location, mais bien un trou dans leur budget. Une action collective en justice est lancée, elle réunit plus d'une centaine de plaignants et l'action enclenchée par la DGCCRF est complémentaire. Abritel se dit étonné par l'assignation, par la répression des fraudes, mais confiant en affirmant « Nos efforts sont constants pour inciter les vacanciers à faire preuve de prudence et à ne pas effectuer de virements en dehors de la plateforme. » L'avocat des victimes rétorque « Votre responsabilité, Abritel, est de ne pas mettre les vacanciers en relation avec des escrocs. »
Explication signée Marie Guerrier. En Seine-Saint-Denis, les deux policiers qui avaient ouvert le feu sur une voiture à Stains en début de semaine ont été remis en liberté hier soir. C'est ce qu'annonce le parquet de Bobigny, qui a décidé de ne pas retenir l'intention d'homicide, ce que conteste l'avocat du passager du véhicule.
Tirer à 8 reprises sur des individus dans un véhicule qui ne présente aucun danger avec des gens qui ne sont pas armés, c'est totalement disproportionné. Et dans cette affaire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas eu de refus d'obtempérer. Pour qu'il y ait un refus d'obtempérer, il faut qu'il y ait des policiers identifiables avec des gyrophares ou avec des brassards, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Et malgré tout ça, nous avons un procureur de Bobigny qui malheureusement n'avait qu'un seul objectif, c'était de protéger, en tous les cas, de faire en sorte que la loi ne s'applique pas à ces policiers. C'est la raison pour laquelle nous avions déjà demandé un dépaysement de ce dossier afin que des magistrats qui ne sont pas proches des policiers mis en cause puissent traiter ce dossier sereinement.
Maître Yacine Bouzerou, joint pour RTL par Thomas Proutot. Les vacances à présent et encore, trop d'enfants n'ont pas la chance d'en profiter. 1 enfant sur 3 ne part pas l'été, 1 sur 3, c'est énorme. Comme chaque année depuis plus de 40 ans, le Secours Populaire organise aujourd'hui la journée des oubliés des vacances. 5000 petits franciliens passent ainsi la journée à Cabourg et vous êtes à leur côté, Frédéric Veil.
Oui, les premiers bus sont arrivés à 9h30 ce matin.
Vous arrêtez les moteurs des bus,
on enlève tout.
Ah, les enfants, allez sur le trottoir.
Bonjour les enfants.
Bonjour.
Ça a été le voyage ?
Oui.
C'était pas trop long ?
Si, c'était très long.
Très long.
3 heures.
Mais au bout de ces 3 heures, la récompense, la plage spécialement réservée pour ces 5000 enfants. Léa a 7 ans.
Bah, ça me fait du bien. C'est les vraies vacances. Je vais m'amuser à ramasser des coquillages, faire des châteaux et à aller mouiller un peu.
Parents, on peut mettre les maillots de bain.
Bien évidemment, maillots de bain, mais d'autres comme Redouane sont mieux équipés.
J'ai mis des lunettes prolongées et après je pourrai aller tout au fond.
Bon, t'es prêt ?
Ouais, je suis prêt.
C'est parti ?
C'est parti.
C'est parti donc pour une journée de baignade dans une eau plutôt fraîche, mais qu'importe, comme le dit Anis.
On est à la plage. C'est trop bien, mais il fait froid.
Elle est bonne, l'eau ?
Moyen.
Il paraît que ça va se réchauffer cet après-midi.
Il paraît que c'est pas gagné, hein, Louis Baudin. Non, 17 degrés, vous me disiez, pour l'eau à Cabourg ?
En ce moment, oui. 17-18 degrés, oui.
Bon, c'est pas chaud. Cabourg, où l'on retrouve tout de suite Thierry Robert. Bonjour, merci d'être en direct avec nous sur Bonjour. RTL. Vous êtes le directeur général du Secours Populaire à l'origine donc, de cette journée. Journée magique, on vient d'entendre ces enfants. 1 sur 3, je le disais, ne part pas en vacances. C'est énorme. Et ce chiffre, il ne bouge pas depuis des années. Est-ce que les enfants que vous accueillez, eux, ont changé ? Est-ce que leur profil est différent ?
Nous avons des enfants de familles en difficulté, victimes de la pauvreté, de la précarité. Mais nous rencontrons aussi aujourd'hui des familles qui, il y a quelques années encore, pouvaient partir en vacances. Et la crise étant passée par là, sont cette année privées de vacances. Et donc ce sont des enfants aussi cause Covid qui sont aussi présents sur ces journées des oubliés des vacances, comme celle d'aujourd'hui à Cabourg.
La crise sanitaire a un impact direct encore cette année ?
Oui, bien sûr, beaucoup de gens n'ont pas retrouvé d'emploi, ont des situations économiques fragiles et du coup, les vacances passent au second plan et donc des enfants en sont privés. Et nous, le Secours Populaire, notre objectif est de faire partir un maximum d'enfants en vacances pour qu'un maximum d'enfants aient quelque chose à raconter à la rentrée pour être comme tous les autres et avoir vécu ne serait-ce qu'une journée, comme c'est le cas ici au bord de la mer ou dans les autres régions, puisque nous organisons d'ici la semaine prochaine 50 journées du même type dans tout le pays avec des milliers de bénévoles qui sont mobilisés depuis plusieurs semaines au sein des permanences du Secours Populaire pour le bonheur et la joie de ces enfants.
50 journées, j'imagine que le sourire, les yeux qui brillent, ce sont ça aussi vos récompenses ?
C'est exactement ça, c'est la meilleure des récompenses que nous pouvons avoir du temps qui est donné par toutes ces personnes, jeunes et moins jeunes, qui accompagnent, qui organisent la logistique, qui préparent ce séjour de façon tout à fait bénévole.
Merci beaucoup Thierry Robert, directeur général du Secours Populaire, d'avoir été en direct avec nous de Cabourg et transmettez plein de bonheur à tous ces enfants que vous accompagnez.
L'été, le temps s'améliore. Hein.
Mais toute l'année. Eh bien tant mieux, profitez-en bien. Très belle journée à Cabourg.
Au revoir.
Autre initiative, la belle histoire du jour, c'est celle de cette athlète médaillée d'argent au JO de Tokyo qui a décidé, figurez-vous, de vendre sa médaille pour aider un bébé malade. La suite, c'est vous, Jean-Michel Rascol, qui nous l'a raconté.
Eh bien, elle s'appelle Maria Andrejczyk, vice-championne olympique du lancer du javelot il y a 2 semaines. L'athlète de 25 ans a mis en effet aux enchères sa médaille pour tenter de financer l'opération d'un petit Polonais de 8 mois qui souffre d'une malformation cardiaque et qui doit être prise en charge aux États-Unis. L'enseigne polonaise Zabka, chaîne de magasins de proximité, a remporté l'enchère en proposant une somme plus élevée que les 330 000 euros espérés. Et les dirigeants de Zabka ont décidé de saluer le geste magnifique et qualifié d'extrêmement noble de la championne en lui rendant sa médaille. Cette médaille n'est qu'un objet, avait écrit Maria en rentrant de Tokyo, mais elle peut être d'une grande valeur pour les autres. Elle peut sauver des vies au lieu de prendre la poussière dans un placard. La médaille du cœur existe encore et c'est assez réconfortant, vous ne trouvez pas ?
Effectivement, ça fait du bien. Merci beaucoup Jean-Michel. Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL, 12h50. On marque une toute petite pause. Vous avez la parole dans un petit quart d'heure. Vous le savez, avant cela, ce sera le jour où j'ai dit oui. Votre chronique politique de l'été. A tout de suite sur RTL.
RTL. RTL. Présidentielle. Le jour où j'ai dit oui.
La présidentielle, vous le savez, c'est dans un peu plus de 9 mois maintenant et on vous emmène cet été sur RTL à la rencontre d'anciens candidats. Comment et pourquoi ont-ils franchi le pas ? Ils nous racontent sans langue de bois. Parole aujourd'hui à François Bayrou, le président du Modem, qui a déjà été 3 fois candidat. Et vous allez le voir, il n'exclut pas de remettre ça un jour. Jacques Serret l'a rencontré pour RTL.
Il est de ces candidats qui n'en démordent de jamais. 3 essais à la présidentielle à son actif. Pour François Bayrou, béarnais, fils d'agriculteur, c'est avant tout l'histoire d'une passion dès l'enfance et de conviction.
J'étais certain que c'était ma destinée. C'était « je vais défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre tout seuls », c'est-à-dire les miens. Des milieux de femmes et d'hommes très laborieux, très vaillants, sans argent. J'avais perdu mon père très jeune et qu'évidemment, dans ces cas-là, il y a une idéalisation.
À la fin des années 90, il prend la présidence de l'UDF, l'Union pour la démocratie française, le principal parti centriste.
J'ai fait un premier essai aux élections européennes de 1999 et à la surprise générale, on a fait un bon score. Arrivée l'élection présidentielle de 2002 et j'ai donc décidé, après en avoir parlé, en réalité j'avais un seul alter ego pour les discussions de cet ordre qui était Marielle de Sardès qui est hélas partie il y a quelques mois. Et puis mes autres amis, Jacqueline Gouraud.
François Bayrou expose alors son idée à la maison.
J'en ai parlé à ma femme, et ma femme, sa réponse, ça a toujours été la même, c'est une réponse incroyablement courageuse, c'est « si tu dois y aller, vas-y ». Jamais elle n'a posé d'autres conditions, ni formulé d'autres exigences.
Vous en avez parlé également avec vos enfants.
Si vous y réfléchissez, ça n'a pas beaucoup de sens. De 2 choses l'une, ou bien vous êtes armé, légitime, à la hauteur, et vos enfants le savent et suivent, ou bien vous n'êtes pas armé, ni légitime, ni capable, et alors c'est normal que vos enfants vous disent non. Et comme j'estime être plutôt dans le premier cas que dans le deuxième.
Le 27 novembre 2001, il annonce officiellement sa candidature.
Il faut une relève pour la France. J'ai la détermination et le courage de ce combat.
Une première campagne marquée par un incident dans un quartier sensible de Strasbourg. François Bayrou gifle un enfant d'une dizaine d'années qui lui faisait les poches.
Le père de famille s'est réveillé en moi avant même que je ne réfléchisse.
Le candidat centriste termine 4e au premier tour.
Tout d'un coup, la preuve avait été faite que c'était du vrai.
Un résultat qui le poussera à se présenter une nouvelle fois 5 ans plus tard.
Et ça s'est mis à monter fort, de sorte qu'on a failli tangenter le 2e tour.
Peut-être était-ce trop tôt, concède-t-il aujourd'hui. Cela ne l'empêchera pas cependant de candidater en 2012.
Il y avait une polarisation très forte autour de la personnalité de Nicolas Sarkozy, à qui je m'étais opposé sérieusement.
2017 aurait pu être l'année de son sacre, mais le destin en a voulu autrement. Avec la candidature d'un certain Emmanuel Macron.
Ça faisait des années que je labourais cette terre, que j'avais planté la vigne, que je m'étais occupé de l'entretenir, de la tailler, et les raisins commençaient à mûrir. Et voilà un mec qui arrive, un jeune type, et qui se cache à peine de vouloir vendanger votre vigne. Ça m'a au début profondément agacé.
François Bayrou se laissera pourtant convaincre, et cette fois ne se présentera pas.
Ce qui m'a fait quitter cette posture d'agacement, c'est quand il s'est mis à parler de bienveillance. Et c'était un de mes thèmes. Mais il en parlait Je crois avec sincérité. Donc j'avais le choix entre me présenter, mais on aurait perdu.
Le choix de l'alliance pour une victoire vécue par procuration. Mais François Bayrou a-t-il totalement lâché cette ambition élyséenne ? Pas si sûr.
J'ai jamais rien écarté. Si vous avez un engagement profond, enraciné, vous savez que le destin peut toujours exiger de vous quelque chose. Simplement, j'ai aidé à faire élire le président de la République actuel. La logique des choses, c'est que ça soit lui. Mais pour le reste, on ne sait pas. Biden vient d'être élu, il a 10 ans de plus que moi. Bon, c'est comme ça, la vie. Tout ça dépend d'une seule question. Est-ce que vous portez quelque chose de profond et d'authentique que les autres ne portent pas ? C'est ça qui compte. Donc, je n'ai jamais rien écarté, ni de près, ni de loin.
Le jour où j'ai dit oui, chronique signée à Jacques Serret, à retrouver bien sûr et à réécouter sur l'application RTL. Dans 10 minutes sur RTL, ce sera bien sûr les auditeurs ont la parole. Appelez-nous au 3210 hein, comme chaque jour pour commenter l'actualité. Je voudrais aussi qu'on parle d'un anniversaire. C'est gris, froid. Vous n'avez pas la potion magique pour
Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas trouvé encore. Ah. La preuve, avec effectivement, ce temps qui reste très nuageux, plus même que ce que je prévoyais il y a quelques jours. Les nuages s'accrochent sur la France, sur la plupart des régions. Ça sera encore le cas cet après-midi, notamment au nord de la Seine, dans le nord-est, avec en prime quelques petites bruines, des toutes petites pluies. Alors qu'ailleurs, quand même, au milieu de cette couverture nuageuse, on pourra espérer quelques éclaircies. Il y a toujours la même exception, le quart sud-est, autour du golfe du Lion, la vallée du Rhône, les Alpes, la Corse, la Côte d'Azur, où là, ça restera très ensoleillé, avec encore un peu de mistral et de tramontane. Bonne nouvelle, ça a l'air un peu moins violent même que ce que l'on avait prévu. Il restera plutôt sur les
Bouches-du-Rhône. Ça, c'est bien pour les incendies.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, à surveiller quand même parce que le maximum en matière de vent est toujours attendu en milieu d'après-midi. Donc, on n'y est pas encore. Mais ça a l'air d'être un peu moins violent. Puis les températures, absolument pas de saison. 19 à 21 degrés près de la Manche. 21 à 22 degrés, pas plus dans les autres régions de la moitié nord. 22 à 25 dans le sud. Et 28 à 31 quand même près de la Méditerranée.
Bon, et la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, ce sera un peu mieux en fin de semaine.
Voilà, entre vendredi et samedi quand même. Allez, je prends le risque, je vous annonce un temps.
Vous vous engagez.
Je m'engage. Avec vendredi encore quelques nuages près de la Manche, mais du coup des températures en hausse. On devrait franchir les 25 degrés dans la moitié nord, 30 degrés dans le sud. Et samedi sera une vraie journée estivale avant l'arrivée des orages par l'ouest en fin de journée.
Ah oui, après c'est fini.
Ah bah après dimanche, on en reparlera, mais ça sera plus moyen.
Bon, merci beaucoup. Louis, et à plus tard, bientôt 13h sur RTL. Vous restez avec nous, les anciens de l'actualité, dans un tout petit instant. À tout de suite.
RTL Midi avec Amandine Bégaud.